Dernière conférence, le sujet Jérusalem et le conflit du Proche-Orient. Jérusalem est une des plus vieilles villes du monde. Elle est plus vieille que 4000 ans. Et son histoire de gloire et de catastrophe est absolument unique dans l'histoire humaine. Également, la position géographique est unique. Jérusalem se trouve à la conjonction des trois continents, Europe, Afrique et Asie. Ainsi, on comprend le mot, la parole en Ézéchiel 5, verset 5. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, c'est ici Jérusalem. Je l'ai posée au milieu des nations et autour d'elle des pays. » Aujourd'hui, Jérusalem se trouve au milieu du conflit au Proche-Orient, et en particulier l'esplanade du Temple à Jérusalem de l'Est. Pourquoi ce territoire est tellement désiré? Eh bien, l'esplanade du Temple était l'emplacement du Temple juif. Depuis l'époque du roi Salomon, 11e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la destruction du Temple à Jérusalem au 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà, ces quelques mètres carrés étaient donc le centre géographique de la foi juive. Mais à la même place se trouve aujourd'hui le dôme du rocher. En fait, une mosquée. Et voilà une des plus importantes mosquées du monde islamique. D'ailleurs, depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, cela explique pourquoi il y a un conflit, en particulier en rapport avec ces quelques mètres carrés, qui ont été appelés par le New York Times les mètres carrés les plus explosifs de la planète. Et nous réalisons tous que derrière ce conflit, il y a un danger pour la sécurité du monde entier. Quand on aimerait comprendre ce conflit, ça ne suffit pas de lire les journaux. Parce que dans les masses médias, on explique simplement ce qui se passe juste sur le moment, mais on ne nous explique normalement pas vraiment les racines, l'arrière-plan historique. Et je vous promets, il y aura bien des surprises cet après-midi. Eh bien, nous allons en arrière, 3600 ans. Et nous allons d'abord en Égypte. Parce qu'à cette époque-là, vers 1600 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël, le peuple juif, était un peuple en esclavage en Égypte. Et maintenant, nous allons voir donc le voyage d'Israël de l'Égypte à Jérusalem. Comme j'ai dit, vers 1600 avant Jésus-Christ, Israël était en esclavage, terriblement opprimé par les Égyptiens. Et voilà, c'était l'époque des 10 plaies qui tombaient sur l'Égypte et ont même détruit l'empire égyptien de l'époque. Selon la Bible, c'était la conséquence de l'oppression du peuple d'Israël. Et voilà, cette chute de l'empire égyptien a donné au peuple d'Israël la possibilité de sortir, on appelle cette sortie l'exode d'Égypte, de sortir de l'Égypte pour aller au pays de la promesse, au pays qui était appelé plus tard le pays d'Israël. Et voilà, sur le chemin de l'Égypte au pays de la promesse, le peuple devait passer par le désert du Sinaï. Et voilà, là, au pied du Sinaï, on a donc une station excessivement importante. Israël a reçu le don de la loi, la Torah. D'abord les 10 commandements et encore des centaines de commandements que vous pouvez relire dans les 5 livres de Moïse, la Genèse jusqu'au Deutéronome, donc les cinq premiers livres de la Bible. Voilà, la loi montrait les exigences de Dieu vis-à-vis de l'homme. Cela montre la justice de Dieu. Et bientôt, le peuple d'Israël a fait l'expérience. Nous, les humains, nous sommes incapables de vivre selon les commandements de Dieu. Parce que nous avons en nous une force méchante qui nous pousse à faire justement l'opposé, ou au moins désirer l'opposé, de ce que les commandements demandent. Vous voyez, ainsi la Torah, la loi, était comme un miroir qui entre vraiment dans le centre du cœur et qui prouve finalement que nous sommes tous des pécheurs. Parce que nous avons cette nature pécheresse en nous. Mais le remarquable, lié avec le don de la Torah, Moïse, qui était le conducteur d'Israël à l'époque, a reçu l'instruction divine pour construire un temple transportable, c'est-à-dire le tabernacle. Et là, Israël, au début de son histoire comme nation, a appris le principe du pardon par substitution. Vous voyez, lorsqu'on a réalisé « j'ai péché contre Dieu parce que je n'ai pas obéi au commandement de Dieu », on a pu aller vers ce temple transportable, vers le tabernacle, et apporter un sacrifice d'un animal innocent. Je lis du Lévitique 5, verset 5. « Il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera ce en quoi il aura péché, et il amènera à l'Éternel son sacrifice pour le délit, pour son péché qu'il a commis. » Donc Israël a appris, il y a une possibilité pour obtenir le pardon de Dieu. Mais il faut un substitut, c'est-à-dire un autre qui meurt à notre place, un autre qui est innocent, n'est-ce pas ? Les animaux ne peuvent pas pécher. Un innocent qui meurt à notre place, et en plus, il faut regretter les péchés, il faut les confesser dans la prière à Dieu. Alors, retenons, confession du péché, ensuite identification avec le sacrifice. C'est pour ça qu'il fallait, comme vous voyez sur l'image, imposer les mains sur la tête de l'animal. Et cela voulait dire, je m'identifie avec ce sacrifice. Le sacrifice a dû mourir, et le sang a coulé, et sur la base du sang qui a coulé, on a reçu le pardon. Voyez, Israël a fait un voyage de 40 ans depuis l'Égypte, à travers le désert du Sinaï, jusqu'à ce qu'ils s'en... Ils ont commencé à entrer au pays de la promesse. À la fin de ce long voyage, Moïse a tenu encore 8 discours que vous pouvez relire dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Et là, donc, sur un territoire qui appartient aujourd'hui à la Jordanie, le peuple d'Israël, à peu près 4 millions de personnes, était là. Pour la dernière fois, avant d'entrer dans le pays, dans leur camp, autour du tabernacle, le temple transportable. Et là, avant de franchir le Jourdain pour aller à Jéricho, Moïse a tenu donc 8 discours pour expliquer comment il faut appliquer la Torah qu'ils ont reçue dans le désert, appliquer au pays de la promesse, donc à une situation un peu différente. Dans notre contexte, il est important ce qu'on lit en Deutéronome 12, verset 13, justement en rapport avec le culte, les sacrifices, le temple. Prends garde à toi, de peur que tu n'offres tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais dans le lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et là tu feras tout ce que je te commande. 21 fois, 3 fois 7, Moïse parle de ce lieu choisi par l'Éternel pour le culte en rapport avec les sacrifices. Donc, un lieu choisi, sans alternative. Eh bien, Moïse est mort après ses discours et Josué, son successeur, a amené le peuple d'Israël au pays de la promesse. Un pays magnifique qui ruisselait de lait et de miel. Il fallait beaucoup de temps pour finalement trouver le lieu choisi, duquel parlait déjà Moïse tant de fois. Vers 1049 avant Jésus-Christ, selon une chronologie stricte, le roi David a conquis Jérusalem, qui était jusqu'alors encore une ville cananéenne. Et voilà, par des révélations prophétiques, David a su, voilà, c'est ici le lieu choisi duquel Moïse a parlé en rapport avec le culte et le temple. C'est pour ça que son fils Salomon a agrandi la ville jusqu'au sommet de la montagne de Sion, ou montagne de Morija. Et vers 1012 avant Jésus-Christ, Salomon a construit sur le sommet de cette montagne le premier temple en pierre. Donc voilà, c'était la fin de l'époque du tabernacle. Le temple qui voyage, c'est fini. Maintenant, le temple au lieu choisi, sans alternative. Le sommet de cette montagne est le rocher qui se trouve aujourd'hui dans le dôme du rocher. Vous voyez, lorsque les musulmans, après la mort de Mahomet, ont conquis le pays d'Israël et Jérusalem, ils ont mis le dôme du rocher vers 682 sur le rocher, parce qu'ils savaient à l'époque encore que c'était là le lieu très saint du temple juif. Alors, pour démontrer que l'islam est au-dessus du judaïsme, ils ont mis cette mosquée qui est toujours là. Pourquoi il fallait construire un temple à Jérusalem? Et seulement un temple en un seul lieu? Eh bien, le temple de Salomon, ce temple choisi de Dieu, devait être un témoignage pour le seul Dieu. Vous voyez, les païens autour du peuple d'Israël avaient beaucoup de dieux et beaucoup de temples. Mais Israël connaissait seulement le seul vrai Dieu, donc le Créateur, qui ne fait pas partie de la création, qui est au-dessus. Un Dieu vraiment transcendant, vous voyez. Les dieux des païens sont toujours des dieux dans la nature, des forces cosmiques, comme on dit, dans la nature. Mais le seul vrai Dieu est vraiment le Dieu transcendant, qui n'est pas identique avec son œuvre, la création. Un seul Dieu, c'est pour ça un seul temple, sans alternative. Mais vous savez, à la fin de sa vie, Salomon s'est détourné du seul vrai Dieu. Il a commencé, parce qu'il avait un problème de femme, il a commencé à vénérer des dieux, des peuples des alentours. Et c'était très grave, parce que le peuple d'Israël en général l'a suivi sur ce chemin. Et vous voyez, la Bible, elle est très dure dans sa critique des religions du monde. La Bible explique la vénération de la création au lieu du Créateur, et idolâtrie. Et les prophètes ont dit, si le peuple d'Israël ne retourne pas au seul vrai Dieu, il subira donc des catastrophes nationales. Ils vont retourner en Babylonie, au pays des idoles. N'est-ce pas? Abraham, le père de la nation, était autrefois un idolâtre en Babylonie, dans la ville dure des Chaldéens. Mais le seul vrai Dieu l'a appelé à sortir pour aller au pays de la promesse. Il s'est détourné des idoles, il a vénéré le seul vrai Dieu. Et ses descendants, le peuple d'Israël, a vénéré le seul vrai Dieu. Mais plus tard, ils se sont détournés du seul vrai Dieu. Alors les prophètes ont dit, si vous ne retournez plus, vous devez retourner en Babylonie, au pays des idoles. Mais en général, la masse n'a pas écouté les prophètes.